Ce deuxième conte s'appelle La Montagne Noire et c'est un conte de Bretagne. Il y avait une fois un riche marchand qui vivait seul avec son fils. Il tenait un magasin d'étoffes. Un jour, le père dit au jeune homme : Je vais chercher des marchandises. Je serai parti peut-être 8 jours, peut-être 15. Tu garderas la boutique en mon absence. Mais il était à peine parti que son fils se mit à passer le plus clair de son temps au cabaret, à boire et à jouer aux cartes. Un jour, un inconnu lui proposa une partie de cartes. Le jeune homme accepta et fut si malheureux qu'il perdit jusqu'à son dernier sou, puis son cheval qui joua aussi. « Je ne jouerai plus, » dit-il alors. « Encore une partie, » répondit l'autre. « Je n'ai plus rien, que voulez-vous que je joue ?»« Votre tête contre la mienne. » « Eh bien, soit. Je finirai bien par gagner, » se dit-il. On distribua les cartes. Hélas, le jeune homme perdit encore. « Dans un an et un jour, » lui dit l'inconnu, « vous viendrez me rembourser chez moi, à la Montagne Noire. « Mais quel est votre nom et où habitez-vous ? » « Mon nom est Barbeauvert. Et quant au château que j'habite, vous le chercherez et ferez en sorte de le trouver. Autrement, je saurais bien vous trouver, moi. » Prévoyant un long voyage, le jeune homme se prépara aussitôt. Il demandait à tout le monde le chemin de la Montagne Noire. Tout le monde lui disait « Tu n'en reviendras pas. Beaucoup y sont allés, mais aucun n'en est revenu. Ça ne fait rien. J'ai mangé la fortune de mon père, j'ai promis de me rendre à la Montagne Noire, je m'y rendrai. » Le jeune homme se mit en route. Après plusieurs jours de marche, il se trouva au milieu d'une forêt épaisse. La nuit l'y surprit et il frappa à la porte d'une pauvre hutte dont la lumière l'avait attiré. Un vieillard à barbe blanche lui ouvrit. « Bonjour, mon père ermite. Bonjour, mon fils, » répondit l'ermite. « Que cherchez-vous ? J'ai promis de me rendre à la Montagne Noire, au château de Barbeauvert, mais j'ignore où il se trouve. Moi, je le sais, mais rien ne presse encore. Restez avec moi ici quelques jours, et quand le temps sera venu, je vous le dirai ce qu'il faut faire. » Le jeune homme resta 10 jours auprès de l'ermite, et au bout de ce temps, le vieillard lui dit « Le moment est venu de partir et de tenir votre promesse, mon fils. Écoutez bien. « Faites exactement ce que je vais vous dire et vous pourrez peut-être vous tirer d'affaire. Voici une boule qui roulera d'elle-même devant vous. Vous n'aurez qu'à la suivre. Et elle vous conduira jusqu'au pied de la Montagne Noire, sur le haut de laquelle est le chapeau de Barbeauvert. Arrivé là, la boule reviendra d'elle-même vers moi. Le pied de la montagne est entouré de ronces et d'épines, si serrées que vous ne pourrez aller plus loin. Mais voici des cisailles avec lesquelles vous ferez un passage. Et quand vous n'en aurez plus besoin, vous n'aurez qu'à leur dire « Cisailles, retournez à la maison !» Et elles s'en reviendront d'elles-mêmes jusqu'à moi. Vous gravirez alors la montagne et au sommet, vous verrez un étang dont l'eau est limpide et claire et le fond pavé d'argent. Vous vous cacherez derrière un buisson de laurier et vous ne tarderez pas à voir arriver 3 filles oiseaux qui déposeront leurs plumes pour se baigner. Vous prendrez le plumage de la plus jeune et vous ne lui rendrez que lorsqu'elle vous aura promis de vous emmener auprès de son père. Si vous suivez mes instructions à la lettre, vous pourrez peut-être retourner sain et sauf dans votre pays. » Le jeune homme remercia le vieil ermite, promit de suivre ses conseils et se mit en route, guidé par la boule qui roulait devant lui. Il arriva au pied de la montagne et congédia la boule qui retourna vers l'ermite. Puis il se fraya un passage à travers les ronces et les épines. Après quoi, les cisailles, elles aussi, s'en retournèrent d'elles-mêmes chez l'ermite. Le jeune homme se mit alors à gravir la montagne noire. Tout en haut, il trouva un étang, limpide, au fond pavé d'argent. Il alla se cacher non loin de là, derrière un buisson de laurier rose. Peu après, il vit descendre 3 oiseaux aux larges ailes qui se posèrent sur la rive. À peine eurent-ils touché terre que leurs peaux se fendirent et qu'il en sortit 3 jeunes filles d'une merveilleuse beauté. Elles entrèrent dans l'étang pour se baigner. Aussitôt, le jeune homme sortit de sa cachette et s'empara du plumage de la plus jeune restée sur la rive. En apercevant l'intrus, celle-ci poussa un cri. Les deux aînés sortirent de l'eau et remirent leur plumage et s'envolèrent en toute hâte, sans se soucier de leur cadette. Celle-ci se désespérait. « Rends-moi mes plumes! Je te donnerai tout l'or et toutes les richesses que tu voudras, mais rends-moi mes plumes !» Mais le jeune homme fut inflexible. La jeune fille dut lui promettre de l'emmener avec elle chez son père. À cette condition seulement, il lui rendit son plumage. Il monta alors sur le dos de la fille cygne, qui prit son vol, et ils arrivèrent bientôt au château de Barbeauvert, suspendu entre ciel et terre. Barbeauvert reconnut aussitôt le jeune homme.
« Ah, c'est toi, tu viens me payer ta dette ?»«
Oui, le moment est venu, je crois. »«
Oui, tu as bien fait de venir, car s'il m'avait fallu aller te chercher, tu aurais eu lieu de le regretter. Suis-moi. »«
Attendez jusqu'à demain, mon père, » dit à Barbeauvert la plus jeune des filles, qui s'appelait Coantique.
« Eh bien, soit. Attendons jusqu'à demain, puisqu'il est venu de lui-même. »
Le lendemain, Barbeauvert dit au jeune homme.
« Voilà une cognée de bois. Je m'en vais te montrer l'ouvrage que tu devras faire aujourd'hui. »
Et il le mena dans un grand bois et lui dit.
« Voilà que cette forêt soit abattue et mise en fagot avant le coucher du soleil, sinon gare à toi. »
Mais au premier coup frappé, la cognée tomba en morceaux. Le jeune homme découragé s'assit au pied d'un arbre en se disant « Je suis perdu. Ce n'est pas la peine d'essayer, je n'y arriverai jamais. » À midi, Barbeauvert voulut envoyer sa fille aînée porter le déjeuner au jeune homme, mais celle-ci refusa. « Envoyez plutôt ma sœur cadette !»
La deuxième ne voulut rien savoir non plus. Barbeauvert envoya donc Coantique dans la forêt.
Celle-ci trouva le jeune homme qui pleurait toujours, assis sous un arbre.
« C'est comme ça que tu travailles? Tu n'as encore rien fait ?»«
Et comment veux-tu que j'abatte une forêt avec une hache en bois ?»«
Tiens, mange, et si tu veux m'en croire, dans 2 heures d'ici, toute la forêt sera mise en fagots. Donne-moi ta cognée que je te montre comment on abat les arbres. »
La jeune fille frappa sur le tronc de l'arbre le plus proche, qui tomba sur un autre, lequel s'abattit sur un troisième, qui tomba également sur un quatrième, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tout le bois fût à terre, et cela en moins d'une heure.
« Voilà le travail terminé pour aujourd'hui, » dit Coantique.
Puis elle s'en alla. Au coucher du soleil, le jeune homme s'en retourna au château, sa cognée de bois sur l'épaule.
« Le travail est-il fait ?» lui demanda Barbeauvert qui l'attendait sur le seuil.
« Le travail est fait, » répondit-il tranquillement.
« Tu as abattu toute la forêt ?»«
J'ai abattu toute la forêt. Pas un arbre n'est resté debout. »«
Tu m'as ruiné alors, une si belle forêt !»«
Je n'ai fait que ce que vous m'aviez demandé. »«
Qu'est-ce que cela signifie ?» se demande Barbeauvert étonné.
Mais il n'en laissa rien paraître.
« Mon gars, tu as bien travaillé. Tu vas boire et manger. Demain matin, tu auras encore une rude corvée à faire. »
Le lendemain, il le mena au bord d'un étang et lui donna une écuelle de bois.
« Tiens, et que cette aidance soit vidée avant le coucher du soleil !»
Et il s'en alla. Quand le jeune homme vit cela, il se dit comme la veille. « Je n'arriverai jamais à vider cet étang, quand bien même j'y travaillerai 100 ans. » Il s'assit au bord de l'eau et se demanda si, comme la veille, Coantique lui viendrait en aide. À midi, la jeune fille vint encore lui apporter à manger. Elle le trouva allongé, les pieds dans l'eau.
« Eh, c'est tout ce que tu as fait ?
Jamais je n'arriverai à vider cet étang avec l'écuelle que ton père m'a donnée.
Ne crains rien, j'ai apporté une autre écuelle. Tu vas te coucher les pieds hors de l'eau, bien au sec, et fermer les yeux. Tu entendras un grand bruit, surtout ne bouge pas. Quand le calme sera revenu, tu pourras regarder. L'étang sera complètement à sec. » Il fit comme elle lui avait demandé. Un tonnerre effrayant éclata. Tout tremblait, mais il ne leva pas la tête. Quand le vacarme se fut apaisé, il ouvrit les yeux. La poussière volait dans l'étang. Au coucher du soleil, le jeune homme retourna au château en sifflotant tranquillement.
« Le travail est-il fait ?»
lui demanda Barbeauvert.
« Oui, répondit-il.
« Ce n'est pas possible.
Allez-y voir. » Barbeauvert monta à sa tour et vit avec étonnement que l'étang avait disparu.
« À qui ai-je donc affaire ?» se demanda-t-il. « Mais qu'importe, demain je vais trouver un travail dont il ne se tirera pas si facilement. »
Le lendemain, Barbeauvert dit au jeune homme qu'il lui fallait aller chercher la grande ancre du navire de son grand-père qui se trouvait au fond de la mer depuis plus de 100 ans. Le jeune homme ne s'effraya pas trop. Il alla sur la plage et se mit à fumer sa pipe tranquillement, assis sur un rocher. À midi, Barbeauvert dit à Coantique.
« Tu vas aller lui apporter à manger. »«
« Ah, dit-elle, c'est toujours moi qui y vais !»
Elle y alla pourtant et dit au jeune homme,
« Écoute, aujourd'hui je vais te demander quelque chose de plus difficile. Il faut que tu me coupes la tête et que tu la jettes dans la mer. Tu feras un trou dans le sable pour recueillir le sang que je perdrai. Mais prends bien garde de ne pas t'endormir, tant que le sang coulera de mon corps, car si tu t'endors, c'en est fait de nous, sans espoir. »
Le jeune homme prit le couteau que Cantique lui tendait, et après quelques hésitations, il lui coupa la tête et la jeta à la mer. Il fit un trou dans le sable et y recueillit le sang qui coulait de son corps. Mais il fut soudain pris d'une grande envie de dormir, et il allait y succomber au sommeil quand la tête de la jeune fille sortit de l'eau ramena l'ancre à sa suite.
« Tu allais t'endormir, mon pauvre ami, » lui dit-elle. « Remets vite ma tête sur mes épaules et elle se recollera d'elle-même. »
Le jeune homme ramassa la tête de Cantique, la remit à sa place, et aussitôt la jeune fille redevint bien vivante.
« À présent, retournons à la maison sans perdre de temps, » dit-elle, « car je suis très affaiblie par le sang que j'ai perdu. Heureusement, tu n'as plus rien à craindre de mon père, car nous voici au terme de nos épreuves. Demain, il te proposera de choisir une de ses trois filles. Il nous mettra toutes les trois dans un sac, transformé en souris. Celle que tu en retireras sera ta femme. Quand tu mettras la main dans le sac, deux souris se jetteront dessus aussitôt. Ce seront mes sœurs. Moi, je me tiendrai tranquille au fond du sac, pour que tu me reconnaisses facilement. »
Ils revinrent au château et Cantique s'alita. Quand Barbeau Vert vit que le jeune homme s'était tiré à son honneur de cette dernière épreuve, il lui dit
« Décidément, tu n'as pas ton pareil au monde, et je te veux pour gendre. J'ai trois filles, laquelle veux-tu prendre pour femme ?»«
La plus jeune, » répondit-il sans hésiter.
« Ce n'est pas comme ça qu'il doit choisir, » s'écrièrent les deux aînés. « Que l'on nous mette toutes les trois dans un sac sous forme de souris, et celle qui l'en retirera sera sa femme. »«
Je le veux bien, » dit Barbeau Vert.
On mit donc les trois jeunes filles transformées en souris dans un sac. Le jeune homme y plongea la main, et deux souris se jetèrent aussitôt dessus. Mais il les repoussa et alla chercher la troisième qui se tenait tranquillement tout au fond du sac.
« C'est celle-là que je veux pour femme, » dit-il à Barbeau Vert.
Aussitôt, la petite souris redevint la belle Cantique. On maria les deux jeunes gens. Mais la fille de Barbeau Vert n'avait pas confiance. Au moment de se coucher, elle jeta un chandelier sur le lit destiné à les recevoir. Aussitôt, celui-ci s'effondra dans un gouffre creusé en dessous, tomba sur une roue garnie de lames de rasoir aiguisées et fut bientôt réduit en menus morceaux. Le jeune homme frissonna en réalisant à quel sort il venait d'échapper de justesse. Les sœurs de Cantique, qui étaient aussi sorcières, leur avaient tendu ce piège.
Cantique dit alors à son mari, « Il faut nous enfuir au plus vite, mais d'abord pique-moi une veine qu'il en tombe trois gouttes de sang. Tu iras à l'écurie. Mon père a trois chevaux, grand vent, moyen vent et petit vent. Prends grand vent, selle-le et bride-le. »
Mais le jeune homme s'est trompé et il a scellé petit vent.
Cantique lui dit, « Partons, nous avons le temps de faire bien du chemin avant que mon père ne s'avise de notre départ. »
Quelque temps après, Barbeau Vert vint à frapper à la porte des deux jeunes gens.
« Dormez-vous, mes enfants ?»
Et les trois gouttes de sang que Cantique lui répondirent,
« Pas encore, papa. »
Pendant ce temps, les deux jeunes mariés faisaient du chemin sur petit vent. Barbeau Vert retourna frapper à leur porte encore une fois.
« Dormez-vous, mes enfants ?»«
Pas encore, papa. »
La voix était maintenant toute faible. C'est que les gouttes de sang perdaient de leur pouvoir à mesure que la jeune femme s'éloignait. Barbeau Vert crut que c'était parce que les jeunes gens étaient en train de dormir. Il revient une troisième fois.
« Dormez-vous, mes enfants ?»
Cette fois, les gouttes de sang ne répondirent pas. Les fugitives étaient trop loin. Barbeau Vert dit à sa femme,
« Cette fois, ils dorment profondément. »
Mais elle répondit, « Que tu es nigo ! Tu ne vois pas que c'est le sang de ta fille qui répond et qu'elle est partie depuis longtemps avec son mari ?» Barbeau Vert, furieux, alla chercher grand vent et se mit à la poursuite des fugitifs. Cantique disait de temps en temps à son mari,
« Retourne-toi. Ne vois-tu rien venir là-bas, au loin ?
Je vois grand vent qui arrive en grande furie.
Ne crains rien. Je vais me transformer en cerise, petit vent en cerisier, et toi en jardinier en train de me cueillir. »
Aussitôt dit, aussitôt fait. Barbeau Vert allait rattraper sa fille quand, brusquement, il ne vit plus qu'un jardinier au pied d'un cerisier.
Hé, mon brave, n'avez-vous pas vu deux jeunes gens à cheval qui fuyaient à toute allure ?
« Mais non, mon pauvre monsieur, les cerises ne sont pas encore mûres.
Qui vous parle de cerise? Je vous demande si vous n'avez pas vu deux jeunes gens qui fuyaient à toute allure.
Elles ne sont pas mieux, vous dis-je.
Barbe au vert rentra chez lui, pensant qu'il avait affaire à un imbécile.
Mais sa femme lui dit, quel nigo tu es? Le cerisier, c'était Petit Vent. La cerise était ta fille et ton gendre qui l'accueillait.
Alors Barbe au vert repartit furieux d'avoir été encore trompé.
Pendant ce temps, Cantique disait à son mari, retourne-toi, ne vois-tu rien venir là-bas au loin?
Je vois Grand Vent qui arrive en grande furie.
Ne crains rien. Que Petit Vent se transforme en chien, moi en fusil et toi en chasseur.
Barbe au vert allait les rattraper quand il n'eut plus devant lui qu'un chasseur et son chien.
Hé, mon brave, n'avez-vous pas vu deux jeunes gens à cheval qui fuyaient à toute allure?
Mais non, mon pauvre monsieur, je ne prends pas de gibier.
Ce n'est pas ce que je vous demande.
Et quel gibier voulez-vous que j'attrape par ici?
Barbe au vert n'en put rien tirer et dut rentrer chez lui bredouille.
Décidément, quel nigo tu fais, lui dit sa femme. Ne vois-tu pas que le chien était Petit Vent, que le fusil était ta fille et que le chasseur était notre gendre?
Et cette fois, elle décida de se mettre elle-même à leur poursuite.
Pour la troisième fois, Candique dit à son mari, retourne-toi, ne vois-tu rien venir?
Je vois une carriole qui vole.
Oh, cette fois, c'est ma mère.
La jeune femme transforma son mari en étang et elle-même en cygne nageant. La femme de Barbe au vert s'approcha de l'eau et mietta du pain qu'elle jeta en appelant le cygne. L'oiseau s'approcha et mangea le pain, tandis que la vieille se penchait pour le toucher de sa baguette. Mais le cygne s'en empara et plongea brusquement en l'emportant. La vieille se mit à crier à tue-tête, suppliant Cantique de lui rendre sa baguette, mais en vain. Elle dut reprendre le chemin de la montagne noire, ayant perdu tout son pouvoir. Les deux jeunes gens repartirent et arrivèrent bientôt dans la forêt qu'habitait le vieil ermite. Ils s'arrêtèrent une journée près de lui, et le vieillard baptisa la jeune magicienne. Puis ils repartirent pour la ville natale du jeune homme. Le marchand d'étoffes était bien malade et sur le point de mourir, mais le retour de son fils qu'il croyait perdu à jamais, et la vue de Cantique qui était d'une beauté merveilleuse, lui rendirent instantanément la santé. Ce conte est conté par Barbe Tassel au bourg du Plouaret en 1868 et a été recueilli par François-Marie Luzel.